Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Brigitte Gauthier, la cofondatrice et porte-parole de l'association de protection animale L214. Brigitte Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cauchemar des abattoirs, des couvoirs malhonnêtes avec la diffusion de plusieurs vidéos aux images parfois insoutenables. L'association L214 qui est née et qui est toujours basée à Lyon a remporté des combats. C'est vous qui avez très récemment dénoncé l'abattoir bio du Vigan dans le Gard. Quelles sont les suites de cette affaire ?
Alors aujourd'hui, l'abattoir du Vigan est fermé, provisoirement, comme ça s'est passé pour Alès. Et il y a une enquête judiciaire qui est ouverte pour déterminer justement les responsabilités de ce qu'on a vu sur les images. Enfin là, c'était des extraits de ce qu'on a diffusé.
Espérez des poursuites judiciaires. Ensuite, que peut risquer un dirigeant et un abattoir malhonnête ?
Là, c'est un petit peu toute la question, puisque on vient de le voir, nous, sur l'affaire du couvoir Saint-François. Oui. On est entre le code rural et le code pénal. Donc, ils peuvent encourir des peines jusque, je crois, c'est 50 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour cruauté sur les animaux. Mais comme c'est des fautes commises par un professionnel, on va plutôt être sur des infractions au code rural, donc ça peut être simplement des contraventions ou des délits. Alors là c'est tout le truc technique, juridique. Voilà, les responsabilités vont être déterminées puisque le procureur s'est saisi de l'affaire. Et ça c'est plutôt des nouveautés là qui arrivent depuis quelques mois pour l'association puisque la plupart de nos plaintes avant étaient classées sans suite.
Vous parlez de ce couvoir dans le Finistère, où une décision de justice est tombée pour le dirigeant et pour le couvoir. C'était suite à une vidéo que vous aviez publiée où on voyait des centaines de poussins mourir atrocement. Vous pensez donc que cette condamnation peut être un tournant dans votre combat ?
Pour L214, c'est une des premières fois qu'il y a vraiment une prise au sérieux de la part de la justice de faits qu'on peut rapporter et qu'il y a condamnation d'un professionnel.
C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays où finalement la France est un peu en avance ou en retard par rapport à d'autres ?
La France est plutôt en retard sur la question animale.
Ouais.
Alors évidemment, en Europe, on a une législation qui est en place et qui est plutôt plus élevée qu'ailleurs dans le monde. Mais la France est en queue de peloton de cette Europe.
Oui, voilà. Mais les Français sont globalement peu informés sur les méthodes d'abattage, celles qui sont légales, celles qui ne le sont pas. Quelles sont les normes européennes qui devraient être mises en place aujourd'hui ?
Effectivement, les normes, elles sont au niveau de l'Europe et elles sont théoriquement en place en France aujourd'hui.
D'accord.
À savoir que les normes limitent les souffrances qu'on peut faire endurer à un animal, mais elles ne les éliminent pas.
Mmh.
C'est-à-dire que chaque fois que vous tuez un animal dans un abattoir, il va en souffrir, que ce soit avec des émotions comme la peur, la terreur aussi,
oui.
On peut le voir dans le regard des animaux, cette envie de fuir, évidemment, et puis la douleur qui peut être provoquée par des méthodes d'étourdissement qui ne sont pas simplement des petits mouchoirs de chloroforme sur le nez des animaux, mais des méthodes quand même assez violentes. Vous avez le choix entre être électrocuté, avoir le crâne défoncé, ou alors être asphyxié au gaz. Donc ce ne sont pas des méthodes douces. Donc ces méthodes d'abattage, on a d'abord l'étourdissement, donc que je viens de décrire, qui n'a rien de quelque chose de doux, et puis ensuite la saignée. Et il y a aussi une partie des animaux qui sont abattus sans étourdissement, notamment pour l'abattage rituel. Les vidéos qui rapportent un petit peu l'ambiance qui peut régner dans ces endroits-là, mais rien ne vaut la visite sur place. Enfin, pouvoir justement regarder ce qu'on fait aux animaux, je dirais presque les yeux dans les yeux, quoi. Et les normes sont surtout là, aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas nous en tant qu'association de défense des animaux, pour un petit peu rassurer les consommateurs. C'est-à-dire on se dit, c'est bon, il y a des normes, donc tout est encadré. En fait, ce qui a choqué dans les images du Vigan, dans les images d'Alès, c'est pas vraiment qu'il y ait une exception à la réglementation. L'exception, c'était de pouvoir montrer ces images.
Ouais.
Et c'est ça qui a choqué les gens, le fait de voir les animaux passer de vie à trépas contre leur gré. Et c'est ça qui a choqué les gens. On connaît pas les normes, on sait pas comment ça doit être fait. Mais enfin, en tout cas, voir des animaux se faire saigner sous nos yeux, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose, il y a une injustice là-dedans, il y a quelque chose de pas sain, de pas normal. Et c'est ça qui est très, très choquant.
Oui, sur la base de ces images, sur la base de ces informations, vous avez fait reculer des personnalités, des sociétés comme Monoprix, Joël Robuchon, Michel et Augustin. Quelle image vous pensez renvoyer aujourd'hui auprès de ces professionnels ? Est-ce que c'est de la crainte ou au contraire, ils vous accueillent, ils vous remercient peut-être de leur apprendre certaines choses ?
On a effectivement des retours qui peuvent être assez différents parents. Au départ, il y a pas mal de méfiance.
Oui.
On n'est pas agressif dans notre communication. C'est-à-dire qu'on cherche à encourager. Bien sûr, on est un peu insistant parce qu'on a quand même, on se rend compte que les animaux sont vraiment dans des situations absolument abominables et on a vraiment envie que ça change pour les animaux. Et on essaye de les convaincre plutôt en passant par leur clientèle qui est, elle, sensible à la question animale. Hein. On l'est tous, hein. Personne ne veut maltraiter et tuer sans nécessité. Donc voilà, notre objectif, c'est de dire attention, quand vous vendez des produits, vous avez la responsabilité de ce qui arrive aux animaux derrière.
Votre combat a pris une nouvelle dimension avec la diffusion de la vidéo de l'abattoir d'Alès, hein, qui a fait plus d'un million de vues sur Internet, qui a été diffusée, matraquée par les télévisions d'information. Tout le monde a vu ces images choquantes. Est-ce que vous regrettez quand même, dans un sens, que vous soyez obligé de diffuser ce genre de vidéos pour que les gens prennent conscience, alors que ça fait des années que vous faites des actions un peu partout en France?
Oui, on peut le regretter, d'autant plus que bah voilà, qui diffuse ces images sont des personnes qui sont véganes, donc qui ne consomment plus aucun produit d'origine animale.
Oui, de viande, d'œufs, de lait.
De viande, d'œufs, de lait, de poisson. Du coup, pourquoi s'attacher à diffuser ce genre d'image? Effectivement, si on a arrêté de manger les animaux, ça a été un cheminement par rapport à ce qui arrive aux animaux. Et on se rend compte que simplement en le disant, alors il y a des gens qui peuvent être touchés, qui peuvent être sensibles aux arguments éthiques, au fait qu'il y a des progrès en éthologie en ce moment formidables qui montrent à quel point on est passé à côté des animaux finalement, que ce sont des êtres intelligents, conscients, qui ressentent des émotions, qui ont envie de vivre. Et finalement, ce sont des peuples qu'on a à côté de nous aussi, qui vivent sur cette planète avec nous. Et on est passé complètement à côté d'eux. Et il y a des gens qui sont sensibles aux arguments. Et puis, on est dans une société de communication. Et aujourd'hui, la communication, elle est plutôt maîtrisée par des gens qui veulent vendre des produits. Et donc, on a une image complètement faussée de comment sont élevés les animaux, comment ils sont tués. Et puis, sur la nutrition aussi. On a l'impression que si on ne mange pas de viande ou si on ne prend pas de produits laitiers, dans 3 jours, on est mort. Donc voilà, il y a vraiment une information à redonner. Et c'est vrai que les images, on peut pas nier.
D'ailleurs, ces images, vous les obtenez comment? C'est principalement du reportage de terrain? Ce sont les membres de l'association qui s'infiltrent? Ou est-ce que ce sont des images qu'on vous donne clé en main?
Alors, ça dépend des images, et puis je vais rester assez flou là-dessus.
Bien sûr.
Que les enquêtes continuent finalement, mais ça peut venir de différentes manières. Tout au long de l'existence d'L214, on a eu des images de façon différente, avec par exemple en 2009, on a sorti des images sur un autre abattoir, c'était une personne de chez nous qui s'était fait embaucher. Il y a des enquêtes qu'on fait en caméra ouverte, on se présente dans les élevages, on argumente pour pouvoir rentrer dans les élevages, et puis il y a des professionnels, des employés qui nous contactent en disant écoutez, il faudrait absolument faire quelque chose ici. On a eu des appels de vétérinaires, on a eu des appels d'employés, on a eu des appels de personnes qui ont eu accès à dans un abattoir ponctuellement en étant absolument horrifiées par ce qui se passe. On saisit les opportunités quand on peut.
Et puis vous avez évoqué cette manière de vivre, cette mentalité, être vegan, vous l'êtes, ainsi que le cofondateur de L214. Un monde sans élevage, avec cette population terrestre qu'on va estimer à 10 milliards de personnes d'ici 2030 selon les prévisions de l'ONU, c'est possible aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ce ne serait pas possible, parce que justement...
Avec quelques ajustements?
Oui, aujourd'hui, ce ne serait pas possible en mangeant des animaux, puisque les animaux eux-mêmes doivent être nourris avec des céréales, des légumineuses. Oui. 70% des terres agricoles sont occupées par l'élevage, en fait. Soit parce que les animaux broutent, effectivement, soit parce qu'on fait pousser la nourriture qu'on va leur donner. Si on écarte la question éthique des animaux, c'est en plus du gaspillage. C'est-à-dire que si on veut gaspiller encore plus, il faut faire encore plus de viande. Donc, si on veut espérer pouvoir nourrir tout le monde, en fait, dans l'intérêt même des êtres humains, il faudrait ne plus manger de produits d'origine animale ou au moins réduire drastiquement la consommation, notamment des pays développés où on plante notre fourchette 2 fois par jour dans de la viande et on a des produits d'origine animale du matin jusqu'au soir, quoi. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à l'environnement. On a des territoires emblématiques comme la Bretagne, France, où on voit très bien les conséquences de la surproduction de produits d'origine animale, avec les algues vertes, l'ammoniac. Si on regarde par exemple au niveau des déjections, toutes les déjections qui sont faites en Bretagne aujourd'hui par les animaux qui sont détenus dans des élevages, elles équivalent à toutes nos déjections, à nous, 66 millions de Français.
D'accord.
C'est juste énorme. Et c'est nos déjections passent par des centrales d'épuration, alors que par rapport aux épandages pour les animaux d'élevage, c'est les excréments qui sont répandus sur le sol, qui passent dans les nappes phréatiques. Donc par rapport à l'environnement aussi, on peut parler aussi des gaz à effet de serre. On en a parlé à l'occasion de la COP21. On voit bien aussi que l'élevage et responsable d'une grande partie des gaz à effet de serre. Donc voilà, ça fait déjà deux gros arguments qui font que effectivement on doit réduire drastiquement la consommation de produits d'origine animale. Et puis il y en a un troisième, le fait qu'on fasse pousser des céréales, des légumineuses pour donner aux animaux. Aujourd'hui, on a quand même un peu plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et c'est pas forcément dans des pays où il n'y a rien qui pousse. On est, par exemple, la France, un des premiers importateurs de soja du Brésil. On parle de déforestation, on parle de paysans qui sont chassés de leurs terres. On est co-responsable de ce qui se passe dans d'autres pays du monde. On n'est absolument pas autosuffisant en France. On va chercher des ressources pour nourrir les animaux qu'on a ici. Toutes ces considérations font que, effectivement, si on veut pouvoir nourrir tant d'êtres humain à brève échéance, finalement, il faut qu'on revoie complètement notre façon de consommer. Puis si on y ajoute un zeste d'éthique, alors à ce moment-là, on arrête complètement d'exploiter les animaux.
Merci Brigitte Gauthier. Notre interview est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.